Vous écoutez France Culture.
Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature, 1903-2010. 2006, Orhan Pamuk.
Né à Istanbul, Turquie, en 1952. Langue, turc. Enfant d'une famille laïque et relativement aisée d'Istanbul, il poursuit des études d'architecture et de journalisme, puis très tôt, décide de se consacrer à l'écriture et à l'enseignement de la littérature.
Ses prises de position pour la reconnaissance du génocide arménien lui valent des poursuites judiciaires et des menaces de mort de la part des nationalistes turcs.
Babamın bavulu. Ölümünden iki yıl önce babam kendi yazıları,
la valise de mon papa.
El yazmaları ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana.
Deux ans avant sa mort, mon père m'a remis une petite valise remplie de ses propres écrits, ses manuscrits et ses cahiers. En prenant son habituel air sarcastique, il m'a dit qu'il voulait que je les lise après lui, c'est-à-dire après sa mort. Jette un coup d'œil, a-t-il dit un peu gêné. Peut-être y a-t-il quelque chose de publiable. Tu pourras choisir. On était dans mon bureau, entouré de livres. Mon père s'est promené dans le bureau en regardant autour de lui, comme quelqu'un qui cherche à se débarrasser d'une valise lourde et encombrante sans savoir où la poser. Finalement, il l'a posée discrètement, sans bruit, dans un coin. Une fois passé ce moment un peu honteux mais inoubliable, nous avons repris la légèreté tranquille de nos rôles habituels, nos personnalités sarcastiques et désinvoltes. Comme d'habitude, nous avons parlé de choses sans importance, de la vie, des inépuisables sujets politiques de la Turquie, de tous ses projets inaboutis, d'affaires sans conséquence. Je me souviens d'avoir tourné autour de cette valise pendant quelques jours après son départ, sans la toucher. Je connaissais depuis mon enfance cette petite valise de maroquin noir, sa serrure, ses renforts cabossés. Mon père s'en servait pour ses voyages de courte durée et parfois aussi pour transporter des documents de chez lui à son travail. Je me rappelais avoir, enfant, ouvert cette valise et fouillé dans ses affaires, d'où montait une odeur délicieuse d'eau de Cologne et de pays étrangers. Cette valise représentait pour moi beaucoup de choses familières ou fascinantes de mon passé et de mes souvenirs d'enfance. Pourtant, je ne parvenais pas à la toucher. Pourquoi ? Sans doute à cause du poids énorme et mystérieux qu'elle semblait renfermer. Je vais parler maintenant du sens de ce poids. C'est le sens du travail de l'homme qui s'enferme dans une chambre, qui, assis à une table ou dans un coin, s'exprime par le moyen du papier et d'un stylo. C'est-à-dire le sens de la littérature. Je n'arrivais pas à prendre et à ouvrir la valise de mon père, mais je connaissais certains des cahiers qui s'y trouvaient. J'avais déjà vu mon père écrire dessus. Ce n'était pas la première fois que je ressentais tout le poids contenu dans cette valise. Mon père avait une grande bibliothèque. Dans sa jeunesse, à la fin des années 40, il avait voulu devenir poète, à Istanbul. Il avait traduit Valéry en turc, mais n'avait pas voulu s'exposer aux difficultés d'une vie consacrée à la poésie dans un pays pauvre, où les lecteurs étaient bien peu nombreux. Mon père avait eu une enfance facile, il ne voulait pas se fatiguer pour la littérature. Il aimait la vie et ses agréments, et je le comprenais. Ce qui me retenait tout d'abord de m'approcher de la valise de mon père, c'était la crainte de ne pas aimer ce qu'il avait écrit. Il s'en doutait sûrement, et avait d'ailleurs pris les devants en affectant une espèce de désinvolture à l'égard de cette valise. Cette attitude m'affligeait, moi qui écrivais depuis 25 ans, mais je ne voulais pas tenir rigueur à mon père de ne pas prendre la littérature suffisamment au sérieux. Ma vraie crainte, la chose qui m'effrayait vraiment, c'était la possibilité que mon père eût été un bon écrivain. C'est en fait cette peur qui m'empêchait d'ouvrir la valise de mon père. Et je n'arrivais même pas à m'avouer cette vraie raison. Car si de sa valise était sortie une grande œuvre, j'aurais dû reconnaître l'existence d'un autre homme totalement différent à l'intérieur de mon père. C'était quelque chose d'effrayant. Même à mon âge déjà avancé, je tenais à ce que mon père ne fût que mon père et non un écrivain. Pour moi, être écrivain, c'est découvrir patiemment, au fil des années, la seconde personne cachée qui vit en nous et un monde qui secrète notre seconde vie. L'écriture m'évoque en premier lieu non pas les romans, la poésie, la tradition littéraire, mais l'homme qui, enfermé dans une chambre, se replie sur lui-même, seul avec les mots, et jette, ce faisant, les fondations d'un nouveau monde. Cet homme ou cette femme peut utiliser une machine à écrire, s'aider d'un ordinateur, ou bien, comme moi, peut passer 30 ans à écrire au stylo et sur du papier. En écrivant, il peut fumer, boire du café ou du thé. De temps en temps, il peut jeter un coup d'œil dehors, par la fenêtre, sur les enfants qui s'amusent dans la rue, s'il a cette chance, sur des arbres, un paysage, ou bien sur un mur aveugle. Il peut écrire de la poésie, du théâtre ou, comme moi, des romans. Toutes ces variations sont secondaires par rapport à l'acte essentiel de s'asseoir à une table et de se plonger en soi-même. Écrire, c'est traduire en mots ce regard intérieur, passer à l'intérieur de soi et jouir du bonheur d'explorer patiemment et obstinément un monde nouveau. Au fur et à mesure qu'assis à ma table, j'ajoutais mot après mot sur des feuilles blanches, et que passaient les jours, les mois, les années, je me sentais bâtir ce nouveau monde, comme on bâtit un pont ou une voûte, et découvrir en moi comme une autre personne. Les mots, pour nous, écrivains, sont les pierres dont nous nous bâtissons. C'est en les maniant, en les évaluant les uns par rapport aux autres, en jaugeant parfois de loin, parfois au contraire en les pesant et en les caressant du bout des doigts et du stylo, que nous les mettons chacun à sa place, pour construire à longueur d'année, sans perdre espoir, obstinément, patiemment. Pour moi, le secret du métier d'écrivain réside non pas dans une inspiration d'origine inconnue, mais sur l'obstination et la patience. Une jolie expression turque, creuser un puits avec une aiguille, me semble avoir été inventé pour nous autres écrivains. J'avais peur d'ouvrir la valise de mon père et de lire ses cahiers, parce que je savais qu'il ne se serait jamais exposé aux difficultés que j'ai eues moi-même à affronter. Il aimait non la solitude, mais les amis, les pièces bondées, les plaisanteries en société. Mais ensuite, je fis un autre raisonnement. La patience, l'ascétisme, toutes ces conceptions que j'avais échafaudées pouvaient n'être que mes propres préjugés, liés à mon expérience personnelle et à ma vie d'écrivain. Les auteurs géniaux ne manquaient pas qui écrivirent au milieu d'une vie brillante, bruyante, avec une existence sociale ou familiale heureuse et intense. De plus, notre père nous avait abandonnés, enfants, pour fuir justement la médiocrité de sa vie familiale. Il était parti à Paris, où il avait, comme beaucoup d'autres, rempli des cahiers dans des chambres d'hôtel. Je savais que dans la valise se trouvait une partie de ces cahiers, car pendant les années qui précédèrent la remise de cette valise, mon père avait commencé à me parler de cette période de sa vie. Dans notre enfance aussi, il parlait de ces années-là, mais sans évoquer sa propre fragilité, ni son désir de devenir poète, ni ses angoisses existentielles dans des chambres d'hôtel. Peut-être fallait-il plutôt, au lieu d'attacher trop d'importance à la valeur littéraire de ses écrits, aborder les cahiers de mon père en considérant tout ce que je devais aux livres de sa bibliothèque. En me rappelant que mon père, quand il vivait avec nous, n'aspirait lui aussi, comme moi, qu'à se retrouver seul dans une chambre pour se frotter à la foule de ses rêves. Celui qui marque le début de la littérature moderne, le premier grand exemple d'écrivain libre et de lecteur affranchi des contraintes et des préjugés, qui a le premier discuté les mots des autres sans rien écouter que sa propre conscience, qui a fondé son monde sur son dialogue avec les autres livres, est évidemment Montaigne. Montaigne est un des écrivains à la lecture desquels mon père revenait sans cesse et m'incitait toujours. Je veux me considérer comme appartenant à cette tradition d'écrivains qui, que ce soit en Orient ou en Occident, se démarquent de la société, quelle qu'elle soit, où ils vivent, pour s'enfermer dans une chambre pleine de livres. Pour moi, l'homme dans sa bibliothèque est le lieu où se fonde la vraie littérature. Mon père avait une bonne bibliothèque de quelques 1500 livres qui aurait largement suffi à un écrivain. Quand j'avais 22 ans, je n'avais peut-être pas lu tous les livres qui étaient dans sa bibliothèque, mais je les connaissais tous un par un. Je savais lesquels étaient importants, lesquels étaient légers et faciles à lire, lesquels étaient des classiques et des monuments incontournables, lesquels étaient des témoins, voués à l'oubli mais amusants, d'une histoire locale, et lesquels étaient les livres d'un écrivain français auquel mon père tenait beaucoup. Parfois je contemplais de loin cette bibliothèque. J'imaginais que moi-même, un jour, j'allais dans une autre maison posséder une bibliothèque semblable et même meilleure, que j'allais me bâtir un monde avec des livres. À partir des années 70, moi aussi j'ai eu la prétention de me constituer une bibliothèque personnelle, avant même d'avoir vraiment décidé de devenir écrivain. Comme j'en parle dans mon livre « Istanbul », je savais déjà que je ne deviendrais pas peintre non plus, mais je ne savais pas exactement quelle voie ma vie allait prendre. J'avais d'une part une curiosité insatiable et universelle, et une soif d'apprendre excessive et naïve. D'autre part, je sentais que ma vie était vouée à rester insatisfaite, privée de certaines choses qui sont données aux autres. Ce sentiment relevait en partie de celui d'être loin du centre, en province, qui nous gagnait à force de vivre à Istanbul, ou rien qu'à regarder la bibliothèque de mon père. Mon autre souci était que j'habitais en Turquie, dans un pays qui n'attache pas grande importance à ses artistes, qu'ils pratiquent la peinture ou la littérature et les laissent vivre sans espoir. Dans les années 70, lorsque j'achetais, avec l'argent que mon père me donnait, des livres d'occasion poussiéreux et usés chez des bouquinistes d'Istanbul, comme par une ambition dérisoire de suppléer ce que la vie ne m'apportait pas, l'aspect misérable des vendeurs dans les cours des mosquées, au pied des ruines, au coin des rues, la décrépitude et la pauvreté sordide de tous ces endroits désespérants m'influençaient autant que le contenu des livres eux-mêmes. Mon père, pour remplir tous ses cahiers dans cette valise, était allé s'enfermer dans une chambre d'hôtel à Paris et avait rapporté en Turquie ce qu'il avait écrit. Je sentais, en regardant la valise de mon père, que moi aussi j'étais concerné. Et cela me terrifiait. Voilà ce qui m'a fait ouvrir finalement la valise de mon père. Peut-être y avait-il dans sa vie un secret, un malheur trop important pour qu'il ait pu le supporter sans l'écrire. Dès que j'ai ouvert la valise, je me suis souvenu de l'odeur de son sac de voyage, et je me suis aperçu que je connaissais certains de ses cahiers que mon père m'avait montrés des années plus tôt sans y attacher d'importance. La plupart de ceux que j'ai feuilletés, un par un, dataient des années où mon père, jeune encore, nous avait souvent quittés pour se rendre à Paris. Mais ce que j'aurais souhaité, moi, comme les écrivains que j'aime et dont je lis les livres, c'était apprendre ce que mon père avait pu penser et écrire au même âge que moi. Rapidement, j'ai compris que je n'allais pas faire cette expérience. J'étais gêné aussi par la voix d'écrivain que je percevais ça et là dans ses cahiers. Je me disais que cette voix n'était pas celle de mon père, qu'elle n'était pas authentique, ou bien que cette voix n'appartenait pas à la personne que je connaissais comme mon père. Il y avait ici une crainte plus grave que la simple inquiétude de découvrir que mon père cessait en écrivant d'être mon père, ma propre peur de ne pas réussir à être authentique l'emportait sur celle de ne pas apprécier ses écrits à lui et de constater même qu'il était excessivement influencé par d'autres écrivains, et elle se transformait en une crise d'authenticité qui m'obligeait à m'interroger, comme dans ma jeunesse, sur mon existence entière, sur ma vie, mon envie d'écrire et ce que j'ai écrit moi-même. Pendant les 10 premières années où j'ai écrit des romans, j'éprouvais cette crainte avec acuité. Elle m'accablait presque. Tout comme j'avais renoncé à peindre, j'avais peur que cette inquiétude me fasse renoncer à écrire. Je vous ai déjà parlé des 2 sentiments que cette valise, que j'ai depuis refermée et rangée, avait suscité en moi. Le sentiment de provincialité et le souci d'authenticité. Bien évidemment, ce n'était pas la première fois que j'éprouvais profondément ces sentiments d'inquiétude. J'avais moi-même, en lisant et en écrivant, exploré, découvert et approfondi pendant des années ces sentiments à ma table de travail, dans toute leur ampleur, avec leurs conséquences, leurs interconnexions, leurs intrications et la diversité de leurs nuances. Mais je n'étais parvenu au fond du sentiment d'être provincial, de l'angoisse de n'être pas authentique, qu'en écrivant des romans, des livres là-dessus. Par exemple, Neige ou Istanbul pour le sentiment de provincialité, ou Mon nom est rouge et Le livre noir pour le souci d'authenticité. Pour moi, être écrivain, c'est appuyer sur les blessures secrètes que nous portons en nous, que nous savons que nous portons en nous, les découvrir patiemment, les connaître, les révéler au grand jour, et faire de ces blessures et de nos douleurs une partie de notre écriture et de notre identité. Contrairement à ce que je ressentais pendant mon enfance et ma jeunesse, le centre du monde pour moi est désormais Istanbul. Non seulement parce que j'y ai passé presque toute ma vie, mais aussi parce que, depuis 33 ans, j'ai raconté ces rues, ces ponts, ces humains et ces chiens, ces maisons et ces mosquées, ces fontaines, ces héros étonnants, ces magasins, ces petites gens, ces recoins sombres, ces nuits et ces jours, en m'identifiant à chacun tour à tour. À partir d'un certain moment, ce monde que j'ai imaginé échappe aussi à mon contrôle, et devient plus réel dans ma tête que la ville dans laquelle je vis. Alors, tous ces hommes et ces rues, ces objets et ces bâtiments commencent en quelque sorte à parler entre eux, à établir entre eux des relations que je ne pouvais pas pressentir, à vivre par eux-mêmes et non plus dans mon imagination et mes livres. Ce monde que j'ai construit en l'imaginant patiemment, comme on creuse un puits avec une aiguille, m'apparaît alors plus réel que tout. Une semaine après avoir déposé la valise dans mon bureau, mon père m'a rendu visite à nouveau, avec comme d'habitude un paquet de chocolat. Il oubliait que j'avais 48 ans. Comme d'habitude, nous avons parlé de la vie, de politique, des potins de famille, et nous avons ri. À un moment donné, mon père a posé son regard là où il avait laissé la valise, et il a compris que je l'avais enlevé. Nos regards se sont croisés. Il y a eu un silence embarrassé. Je ne lui ai pas dit que j'avais ouvert la valise et essayé d'en lire le contenu. J'ai fui son regard. Mais il a compris. Et j'ai compris qu'il avait compris. Et il a compris que j'avais compris qu'il avait compris. Ce genre d'intercompréhension ne dure que le temps qu'elle dure, car mon père était un homme sûr de lui, à l'aise et heureux avec lui-même. Il a ri, comme d'habitude. Et en partant, il a encore répété, comme un père, les douces paroles d'encouragement qu'il me disait toujours. Comme d'habitude, je l'ai regardé sortir en enviant son bonheur, sa tranquillité. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai senti en moi un tressaillement embarrassant de bonheur. Je ne suis peut-être pas aussi à l'aise que lui, je n'ai pas mené une vie heureuse et sans problème comme lui, mais j'avais, comme vous l'avez compris, remis ses écrits à leur place. J'avais honte d'avoir éprouvé cela envers mon père. De plus, mon père, loin d'avoir été un centre, m'avait laissé libre de ma vie. Tout cela doit nous rappeler que le fait d'écrire et la littérature sont profondément liés à un manque autour duquel tourne notre vie, au sentiment de bonheur et de culpabilité. Mais mon histoire a une autre moitié, symétrique, qui m'a inspiré encore plus de culpabilité et dont je me suis souvenu ce jour-là. 26 ans auparavant, quand j'avais 22 ans, j'avais décidé de tout abandonner et de devenir romancier. Je m'étais enfermé dans une chambre et 4 ans plus tard, j'avais terminé mon premier roman, Monsieur Jeffdet et ses fils. Et j'avais remis, les mains tremblantes, une copie dactylographiée du livre, qui n'était pas encore publié, à mon père, pour qu'il le lise et me dise ce qu'il en pensait. Obtenir son approbation était pour moi important, non seulement parce que je comptais sur son goût et sur son intelligence, mais aussi parce que, contrairement à ma mère, mon père ne s'opposait pas à ce que je devienne écrivain. À cette époque-là, mon père n'était pas avec nous, il était loin. J'attendis impatiemment son retour. Quand il est rentré, 2 semaines après, j'ai couru lui ouvrir la porte. Mon père n'a rien dit. Mais il m'a pris dans ses bras, embrassé d'une façon telle que j'ai compris qu'il avait beaucoup aimé mon livre. Pendant un certain temps, nous sommes restés silencieux, mal à l'aise, comme il arrive dans des moments de sentimentalité excessive. Lorsqu'un peu plus tard, nous nous sommes mis un peu plus à l'aise et avons commencé à causer, mon père a exprimé d'une façon excessivement excité et par des mots exagérés, sa confiance en moi et en mon premier livre. Et il m'a dit que j'allais un jour recevoir ce prix que j'accepterai aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Il m'avait dit cela moins par conviction ou avec l'intention de m'assigner un but que comme un père turc dit à son fils pour l'encourager « Tu seras un pacha ». Et il a répété ces paroles pendant des années, à chaque fois qu'il me voyait, pour me donner du courage. Mon père est mort en décembre 2002. Honorable membre de l'Académie suédoise qui m'avait accordé ce grand prix, cet honneur, et vous, leurs éminents invités, j'aurais beaucoup aimé que mon père soit parmi nous aujourd'hui.
Değerli konuklar, bugün babam aramızda olsun çok isterdim.
C'était Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature 1903-2010. 2006.
Orhan Pamuk. Extrait.
Texte dit par Éric Herson-Macarel.
Traduction, Gilles Autier.
Choix des textes et présentations par Eglal Herrera.
Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Clémence Grosse, Bernard Lagnel, Étienne Vallès.
Les discours de réception des prix Nobel de littérature sont parus chez Flammarion, en coédition avec France Culture.